RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, depuis 40 ans, Médecins sans frontières apporte une assistance médicale à des populations menacées sur la plupart des zones d'urgence à travers le monde, là où la vie et la santé sont en grand danger suite à des conflits, des catastrophes naturelles ou des épidémies. La petite association médicale humanitaire internationale créée en 1971 par des médecins et des journalistes, prix Nobel de la paix en 1999, est aujourd'hui une organisation internationale en capacité de déployer des secours et des soins à des milliers de kilomètres sur des terrains difficiles, tout en restant fidèle à ses valeurs d'indépendance et d'impartialité qui ont fait sa réputation. Une journée à la rencontre de MSF Paris, chez les pompiers de l'aide humanitaire internationale. Un reportage signé Arnaud Jouve.
Welcome. Today, you decided to wear this t-shirt. Wearing an MSF t-shirt means being part of a worldwide medical humanitarian organization. MSF staff work in nearly 70 countries to provide emergency medical care and relief supplies directly to people who need it most.
En moins de 24 heures, nous pourrons expédier l'équivalent de deux hôpitaux complets. Je peux vous garantir que cette boîte sera dans 24 heures à Haïti.
Ici, à l'hôpital des Tabards, nous prenons en charge 1500 patients par mois.
Médecins sans frontières, bonjour.
Paris, 8h30. La porte de l'immeuble de Médecins sans frontières vient de s'ouvrir. Dans le hall, les premiers arrivants croisent le service de nettoyage, les téléphones se remettent à sonner, les bureaux se remplissent et toute la ruche MSF se remet en marche pour une nouvelle journée. Deux jeunes femmes qui viennent de rentrer dans le building se déchargent de leur gros sac à dos. Isabelle et Rachida sont souriantes, mais leurs traits sont tirés. Et de toute évidence, elles arrivent de loin. Je m'approche d'Isabelle. Vous venez d'arriver ?
Oui, je rentre d'Irak ce matin.
D'accord, et vous êtes médecin ?
Je suis médecin, oui. J'étais medical team leader sur le projet de Kayara, où on a ouvert un hôpital.
D'accord.
C'est une petite ville au sud de Mossoul. Il n'y avait aucune health facility secondaire. Donc on a ouvert un hôpital avec une emergency room et puis un bloc opératoire et des lits d'hospitalisation.
Beaucoup de monde ?
On a ouvert le 6 décembre et oui, beaucoup de monde dès le début. On est déjà plein, donc on est déjà en train d'anticiper pour augmenter la capacité d'accueil.
Et j'imagine que les conditions doivent être particulièrement difficiles.
À Kayara, c'est difficile, oui, parce qu'il y a des puits de pétrole qui sont en feu. Là, ça commence à s'améliorer, mais il y a beaucoup de fumée épaisse, noire, en permanence au-dessus de la ville. Là, ça commence à devenir plus facile. On a quand même de l'eau, on a de l'électricité, mais ça s'améliore petit à petit.
D'accord. Oui. Là, vous venez juste d'arriver, ben vous descendez de l'avion.
Oui.
Et là, c'est une fin de mission, vous venez de rentrer.
Voilà, là, c'est la fin de mission après deux mois en Irak, à travailler tous les jours, donc beaucoup de fatigue.
Donc là, qu'est-ce que vous allez faire là aujourd'hui? Vous allez...
Il reste une journée de débriefing avant le repos.
D'accord. Et vous allez rencontrer qui pour le débriefing, par exemple? Comment ça se passe?
On rencontre le responsable de la cellule des urgences à Paris pour dire ce qu'on a fait sur place, faire un retour sur vraiment la situation qu'il y a sur place, les problèmes qui restent à régler. Et voilà. Et puis normalement, on rencontre aussi la responsable de poule pour commencer à parler de la prochaine mission.
Vous avez déjà une idée de là où vous repartez ou pas?
Pas du tout, je laisse MSF choisir, j'obéis.
Et vous repartez dans combien de temps, a priori?
On va voir comment je digère cette mission, mais a priori dans 2-3 mois.
Bon retour.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Je peux prendre votre nom?
Je m'appelle Babette.
Vous arrivez là?
Je suis arrivée hier matin, oui.
Vous arrivez d'où?
Je suis arrivée d'Irak, d'Erbil.
Vous intervenez comme quoi?
J'étais chef de mission en fait, coordinatrice d'urgence pour la mission liée à la crise de Mossoul. C'est une mission qui a été installée en 2013, puisqu'il y avait la crise des réfugiés syriens qui arrivait. Ensuite, cette année, on a essayé d'augmenter notre capacité de réponse pour la crise de Mossoul, avec l'ouverture d'un hôpital à Kayara. En ce moment, on est en train d'essayer d'ouvrir des postes médicaux avancés pour traiter, stabiliser les patients avant de les référer vers des hôpitaux secondaires.
D'accord. Et vous êtes resté combien de temps?
Je suis resté 2 mois.
Et là, c'est une pause ou c'est un retour?
C'est une longue pause, en fait. C'est un retour de mission, fin de mission. Comme c'était une mission un peu d'urgence, d'ouverture de projet, un petit peu intense. Donc, besoin de repos maintenant.
Il y a une autre équipe qui prend le relais là.
Et il y a une autre. En fait, c'est un mouvement permanent. Chaque fois que quelqu'un termine sa mission, quelqu'un retourne pour remplacer. Et on essaye d'adapter en fonction des besoins des projets.
Quelques instants plus tard, je retrouve Babette dans la salle de débriefing. Dans la pièce, une dizaine de personnes sont rassemblées autour d'elle. Sur la table, des cartes d'état-major de la zone de Mossoul.
Bon, qu'est-ce que vous voulez que...
Tu nous racontes tout?
Que je vous raconte tout, ben, vous en savez déjà pas mal. J'ai pas les dernières infos sur l'avancée du conflit, des opérations militaires, mais ça reste extrêmement lent. Donc pour l'instant, ils ne sont toujours pas arrivés jusqu'au fleuve.
Au fleuve,
ouais. Des rumeurs qu'on a entendues disent qu'il pourrait y avoir une plus grosse offensive dans la semaine qui vient. À un moment, il faudra se poser la question. Un poste médical avancé dans cette
zone-là.
Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué parce que les contacts avec les... ce sont les milices tribales qui interviennent pour l'instant aux côtés de l'armée irakienne. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué en termes d'acceptance là parce que c'est des chefs multiples et non pas
une telle... C'est beaucoup plus fractionné.
C'est plus fractionné. Ça s'est vu pendant le Mass Casualty Event parce que pour demander aux gens de sortir leurs armes, de ne pas rentrer avec les armes, Brigitte qui était là, Claire, elle a eu affaire à plein de personnes. Si tu as un chef l'armée militaire, c'est plus facile.
MSF est une organisation internationale, privée et indépendante, à but non lucratif, née à Paris en 1971 sur l'initiative de médecins et de journalistes qui souhaitaient pouvoir intervenir sur les situations d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, MSF est présent dans une vingtaine d'États et développe des programmes d'intervention sur 69 pays dans le monde, dont 29 en Afrique. Une organisation qui est restée fidèle à ses convictions, comme l'explique Ronnie Broman, ex-président de MSF, qui a rejoint l'association dans les premières années.
Quand on regarde les gens qui viennent, qui se présentent pour partir, moi ce qui me frappe c'est que les attentes, les envies, le regard n'ont pas fondamentalement changé. On a envie de partir, de se rendre utile, de connaître d'autres mondes, d'autres sociétés, d'autres situations. Donc un mélange de motivation, disons, plutôt personnelle, qui relève de l'envie de se réaliser, et puis des motivations plus larges, qui relèvent de l'envie d'être utile, de faire quelque chose de concret. Et ça, je pense que c'est intact, ça n'a pas changé. Ce qui a évidemment changé, c'est le cadre dans lequel tout ça prend place, l'environnement dans lequel ça se déroule. Là, c'est très différent, mais c'est devenu une organisation imposante, connue, respectée, critiquée. Enfin, ça dépend des moments, ça dépend des lieux. Et il y a un côté un peu peut-être intimidant pour les gens qui arrivent. Le bâtiment est imposant, c'est plus le petit local, c'est un immeuble. L'idée qu'on est tout petit par rapport à cette imposante institution, donc on a tendance peut-être à être un peu moins moins s'exprimer personnellement et à plus suivre ce qu'on suppose être la ligne de l'organisation, à supposer qu'il y en a une, parce qu'elle est, enfin il y en a une mais elle est fluctuante et heureusement d'ailleurs. Contexte de l'action humanitaire de guerre, c'est essentiellement auprès des populations déplacées et réfugiées que l'on peut se rendre utile. Beaucoup plus que ce que l'on peut faire à l'intérieur même de la guerre. Mais il faut aussi être conscient que pour Médecins sans frontières, la guerre n'est finalement qu'un chapitre parmi d'autres de l'action, disons. Ce que l'on fait dans le domaine que l'on pourrait appeler action médico-sanitaire, tentative de réduire le paludisme dans telle région, de prendre en charge des femmes enceintes ou des enfants malnutris dans d'autres régions, d'assurer simplement des soins d'une qualité décente dans des régions qui en sont dépourvues, ou bien agir dans des lieux où la guerre a produit des ravages, où la construction ou la reconstruction est lente à survenir, eh bien on épaule, on installe des structures, on permet à des équipes locales de travailler. D'ailleurs, à ce sujet, il est bon de signaler une évolution profonde, importante, mais tout à fait silencieuse, enfin en tout cas qui ne fait absolument aucun bruit, parce que finalement les bonnes nouvelles ne font pas de bruit, c'est l'arrivée sur la scène sociale de cadres africains de qualité qui sont formés avec une qualité de travail bien supérieure à celle qu'on pourrait imaginer compte tenu de la précarité des lieux d'études dans lesquels ils ont travaillé la médecine. C'est pas la faculté de médecine de Kisangani, n'est certainement pas l'école de médecine la mieux équipée que l'on puisse imaginer. Eh bien, j'ai eu l'occasion de voir travailler des médecins sortant de la faculté de médecine de Kisangani, donc en Congo-Kinshasa, dont le sens clinique, la capacité thérapeutique, donc le travail médical était vraiment tout à fait impressionnant et n'avait rien à envier à ceux de médecins expatriés venant d'Europe. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça renouvelle nos façons de travailler. Nos équipes médicales, maintenant, elles sont largement composées d'équipes locales, de travailleurs de santé locaux qui occupent des responsabilités depuis, disons, aide-soignant jusqu'à chirurgien, en passant par responsable d'équipe de vaccination ou de laboratoire. Et ça, c'est une satisfaction tout de même. Ça change nos manières de travailler. Je trouve que ça nous rend plus attentifs aux réalités sociales locales. Ça nous ouvre. On est plus intelligent en multipliant les points de vue culturels, professionnels, sociaux. Et bon, ça donne quelques perspectives pour la suite.
Autre exemple de la diversité des origines des personnels avec le président de MSF, Mego Terzian, un médecin pédiatre libano-albanais aux commandes depuis 2013.
MSF reste toujours une association des médecins et des infirmiers qui, ensemble, tentent de réaliser la mission sociale sur les terrains d'intervention MSF. À savoir que la section française de MSF travaille sur 34 pays en 2016.
Vous choisissez comment vos terrains ? C'est une concertation ? C'est une...
Nous, on n'a pas un mandat comme CICR. Nous, on choisit les terrains d'intervention selon nos moyens ressources humaines, selon nos moyens financiers, selon l'ampleur des besoins en Syrie ou au Sud-Soudan ou ailleurs. Donc nous, on choisit les terrains d'intervention et on décide d'intervenir en toute indépendance grâce à la générosité de nos donateurs. Donc on arrive à intervenir assez rapidement, des fois plus rapidement que les autres acteurs.
Qu'est-ce qui fait que vous allez vous mobiliser sur un terrain en particulier ?
En général, on est l'un des rares acteurs qui interviennent dans les zones en conflit. Peut-être avec CICR, on est les seuls qu'on fait de la chirurgie de guerre. Donc souvent, dans les pays en conflit, on est seul acteur présent. Donc on choisit la Libye ou d'aller en Syrie parce qu'on sait qu'on a une valeur ajoutée en envoyant des équipes à cause de notre connaissance en termes de chirurgie de guerre. Et aujourd'hui, 62% des terrains d'intervention MSF sont des pays en conflit.
Il y a des zones interdites ?
Pour moi, il n'y a pas des zones interdites, mais quand MSF est directement touché, comme par exemple le kidnapping, MSF fera tout pour la bonne résolution du kidnapping. Mais d'abord, on tentera de régler ça avec des pressions politiques. Et si ça ne marche pas, MSF fera tout pour régler le problème. Parce que la priorité, c'est que le staff doit rentrer à la maison sain et sauf. Depuis 2011, on ne passe pas une année sans avoir un problème de sécurité grave. Comme par exemple, au Congo, on a toujours, depuis plus que 3 ans, 3 collègues qui sont détenus par le groupe ADF Nalu, qui est un groupe rebelle ougandais dont leurs bases sont au Congo. Malheureusement, le kidnapping ou la mort font partie de notre métier. Mais après, si on estime que MSF est ciblé directement, ou bien si on estime que les risques sont très très élevés, on fait le choix de ne pas y aller. Il est vrai qu'on a eu l'année dernière l'attaque sur l'hôpital de Kunduz où l'armée américaine a frappé avec un avion et on a eu des pertes humaines, 14 collègues à moi. Et plusieurs patients avaient été tués dans l'hôpital. Il est vrai que cet incident, c'est le deuxième grave incident après la mort des centaines de collègues au Rwanda lors du génocide. Donc c'est dans notre histoire la deuxième histoire grave qu'on a vécue. Mais une chose est différente, c'est que si dans les années 80 ou 90, on avait 7000 personnes qui travaillaient sur les terrains, aujourd'hui, on a 33 000 qui travaillent sur les terrains. Donc, on a triplé le nombre des ressources humaines sur les terrains d'intervention MSF. Et malheureusement, le nombre d'incidents de sécurité a augmenté aussi. Mais l'incidence en termes de violence contre personnel humanitaire, pour moi, l'incidence est restée la même que les années 80 ou 90 ou 2000.
Au cœur du dispositif, il y a les opérations qui coordonnent l'ensemble des programmes. Un service que nous présente Isabelle Mouniaman-Nara, la directrice adjointe des opérations à Paris.
Les opérations sont, donc, en gros, physiquement, c'est un département à Paris qui regroupe à peu près 70 personnes, qui sont réparties en différentes cellules, qui gèrent différents pays. En gros, on met en œuvre les opérations, les interventions d'MSF dans le monde, on va dire. Il y a 5 centres opérationnels à MSF, hein. Les Français, les Suisses, les Belges, les Espagnols et les Hollandais. Et par exemple, au Nigeria, sur l'urgence humanitaire et la crise humanitaire de Borno, il y a les 5 centres d'MSF qui travaillent. Donc par exemple, sur le Nigeria, on a vu arriver ces camps de déplacés internes. Et donc, on a envoyé des équipes pour prendre en charge le côté médical, santé primaire, tout ce qui était sur la nutrition, la vaccination, les consultations médicales classiques. Et petit à petit, le projet a grossi en lien avec le contexte qui s'est, lui, détérioré. Et aujourd'hui, on a plus d'un million et demi de déplacés dans Maïdougouri. Donc aujourd'hui, le projet d'MSF a énormément grossi. Donc Borno est une des plus grosses urgences d'MSF aujourd'hui, avec par exemple le Yémen.
Après un long briefing sur la situation au Nigeria, Christina, une psychologue italienne en partance pour les camps de déplacés de Maïdougouri, se rend au bureau des départs.
Je te donne ton billet d'avion pour ce soir. Donc c'est un Paris Orly West à Abuja via Londres. Donc décollage à 19h55, arrivé 20h10 à Londres, t'en repars à 22h40 pour arriver à 5h50 du coup mercredi à Abuja. Vous avez ton billet d'avion.
D'accord, merci.
T'inquiète pas pour la date retour, elle peut être modifiable si besoin.
D'accord.
Je te donne ton ordre de mission in English pour toute la durée de ta mission sur le Nigeria. Tout ça.
Et ces documents ont aussi d'autres fonctions.
Non, mais tu auras un briefing de façon sécu.
D'accord.
L'ordre de mission et la carte MSF, normalement, vous êtes censé toujours l'avoir avec vous.
D'accord.
Si vous vous déplacez. Okay. Petite carte MSF.
Ma deuxième identité.
Voilà, exactement.
Alors que la nuit tombe sur Paris, Christina ferme ses bagages et se dirige vers le taxi qui l'attend pour l'emmener à l'aéroport. Première étape d'une nouvelle mission MSF pour Christina. Demain, elle sera auprès des victimes de Boko Haram à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, au revoir.
Journée à MSF, un grand reportage d'Arnaud Jouve sur une réalisation de Ludivine Amado.